Say thank you to the organizer to have invited me to this conference, to An Chang and Stéphane Feuillas. I'm sorry, I'm going to speak in French, but my presentation has been fully translated by Alice Crozer, and so you have the exact content of what I'm going to say in your computer, I guess. So, à la suite de la communication d'Alain Todd, qui vient de nous offrir une comparaison très éclairante entre les prescriptions des traités rituels et ce que révèle l'archéologie, je me propose de parler de ce que les traités ne disent pas, mais que l'on trouve dans les matériaux issus de l'archéologie. Je me limiterai à deux exemples. Le premier concerne la transformation d'une malmort en bon mort, et donc potentiellement en ancêtre. Le second aborde les dispositifs utilisés pour faire de la tombe un espace sécurisé. Dans la fameuse étude sur le langage de la douleur de Marcel Granet, l'auteur se livre à une analyse serrée des chapitres consacrés au deuil dans les traités rituels. Il montre que les deux principaux objectifs des rites funéraires sont d'une part d'assurer une séparation définitive entre le mort et les vivants, et d'autre part, d'installer le mort dans son nouveau statut d'ancêtre. S'agissant de la mort du père, la transformation du mort en ancêtre coïncide avec l'accession du fils aîné au rang de chef de famille et de chef du culte ancestral. Cette opération exige de la part du fils aîné l'exercice d'une redoutable ascèse. En effet, le futur chef de famille est tenu dans un premier temps d'imiter la condition du défunt en mimant littéralement la mort. Je cite Granet. « Les pratiques se résument en une espèce de participation à l'état du mort, participation qui implique une exclusion quasi complète de la vie sociale. Expulsés de la société, comme le mort lui-même, ses proches se soumettent à une quarantaine. » Fin de la citation. Le fils, pour lequel les conditions du deuil sont les plus sévères, vit dans un état de claustration. Il est, je cite à nouveau, « enfermé seul dans sa hutte, comme le mort dans le cercueil ». Il est même tenu d'avoir un teint noirâtre, parce que le noir est la couleur du nord et de l'hiver, Orient et saison de la mort. » Fin de la citation. Pourquoi imiter le mort? Granet explique que la réclusion de celui qui porte le deuil protège la société des pollutions que le mort répand sur ses proches, et que l'imitation du mort agit selon un principe homéopathique. On soigne le mal par le mal, on soigne la mort réelle par la mort feinte. Mais en même temps, le deuil se manifeste par des cris, des pleurs, des sauts, des actions collectives qui accompagnent la transformation du mort en ancêtre et actent sa séparation d'avec les vivants. Car la meilleure façon de se protéger du mort est somme toute de le transformer en ancêtre. Je cite à nouveau Granet. « Par des gestes appropriés et faits aux époques utiles, le mort, source d'impureté, principe de malaise, d'affaiblissement, d'exclusion, va être, grâce à l'effort collectif de ses proches, transformé en un ancêtre, puissance tutélaire, titre de noblesse, principe de confiance et de rayonnement. » Fin de la citation. Toutefois, les recommandations que fournissent les traités rituels en vue de transformer le mort en ancêtre valent lorsque le défunt quitte de façon paisible une sorte de monde idéal où règne l'ordre patriarcal, soutenu par les règles de préséance et la piété filiale. Mais qu'en est-il lorsque le mort a été victime d'une mort violente, fauché à la fleur de l'âge ou emporté par un sort injuste? Le récit de la résurrection d'un certain Dan peut nous donner quelques éléments de réponse. Le manuscrit qui rapporte son aventure a été découvert en 1986 dans une tombe datée de 239 avant notre ère, dans le cimetière de Fangmatan, près de la ville de Tianshui, dans le Gansu, au nord-est de la Chine. Si les traités rituels fournissent tous les détails qui ont permis à Granet d'expliquer comment les vivants imitaient les morts, l'écrit de Fangmatan nous éclaire sur le second versant du rite funéraire, la façon dont le mort devient un ancêtre, ou selon une interprétation plus prudente du récit, comment d'un mauvais mort, d'une mal mort, faire un bon mort, c'est-à-dire en définitive un mort susceptible d'accéder au statut d'ancêtre. Or, cette métamorphose repose sur une autorité nouvelle, une administration des morts. De cette autorité, les traités rituels ne nous parlent pas. Dans le récit de Fang Matan, cette administration de l'au-delà est encore peu fournie. Elle se résume, à vrai dire, à deux personnes, le directeur du destin, le Seming, et son secrétaire, le Seming She. Encore le premier est-il seulement sous-entendu par l'existence du second et n'intervient pas dans le récit. Dans les traités rituels, le directeur du destin, le Seming, appartient au panthéon domestique du roi et des princes feudataires. Rien n'indique que le directeur du destin soit au centre d'une administration souterraine, puisqu'il fait au contraire partie des puissances sublunaires qui régissent la vie ordinaire des sujets. Observons le parcours du ressuscité de Fang Matan. En deux mots, son histoire est la suivante. Un homme du nom de Dan est mort exécuté. Après 3 années passées sous terre, il revient à la vie grâce à l'intervention de son ancien patron auprès de l'administration souterraine et, fort de son expérience, il expose la bonne façon d'honorer les morts. Dan est une mâle mort à plusieurs titres. Il a été victime d'une injustice. Il est donc rempli d'amertume et ne peut que chercher à se venger sur les vivants. Il s'est suicidé en se tranchant la gorge. Il fait donc partie des morts qui ont péri par les armes et l'on sait par un autre manuscrit, celui de Thiodien, que ces morts sont dangereux au point qu'un dieu a été désigné pour s'occuper spécialement d'eux, le seigneur Ui ou Itzun. Enfin, son corps a été exposé sur la place du marché, ce qui signifie qu'il est un supplicié, un esprit vengeur en puissance, avant d'être enterré à l'extérieur de la porte sud, donc un mort relégué qui n'a pas trouvé sa place dans le cimetière familial. Or, après 3 années sous terre, Dan revient à la vie grâce à une démarche administrative engagée par son ancien patron auprès du secrétaire du directeur du destin. Le directeur du destin, lui-même un personnage historique, Kong Song Tiang, mort 2 siècles avant. À celui-ci, il est représenté que Dan n'aurait pas dû mourir si tôt. Immédiatement, le secrétaire du destin envoie un chien blanc creuser la fosse de Dan et le libère. Dan se tient ensuite 3 jours sur sa tombe. 3 jours, c'est exactement le délai prescrit par les traités rituels entre la mort et la mise en bière. Puis il entame sa reconversion de mort à vivant sous la conduite du secrétaire du destin, du directeur du destin, qui endosse le rôle de psychopompe. Cette reconversion s'opère dans le Nord, qui est, comme l'a rappelé Granet, le séjour des morts. Elle intervient dans un lieu appelé Vuotio, littéralement tuya et tertre. On ne peut s'empêcher d'interpréter ce toponyme comme une manière de désigner un cimetière, puisque traditionnellement, et aujourd'hui encore, les tertres des tombes sont entourés de tuya, le tuya passant pour un arbre démonifuge. Dan accède ainsi à un lieu propre à abriter les morts, contrairement à sa première sépulture, une relégation à l'extérieur de la ville. Au terme de 4 années, il est en mesure, je traduis une partie du texte du récit que vous avez à l'écran, il est en mesure d'entendre les coqs chanter et les chiens aboyer et de manger comme les vivants. Il garde toutefois des séquelles de son séjour chez les morts, une cicatrice au cou, des sourcils clairsemés, un teint noirâtre et des membres raides. On reconnaît le teint noirâtre évoqué par Granet pour décrire l'homme en deuil imitant le mort. Mais Dan a retrouvé l'essentiel, l'ouïe et le goût. Peut-on aller jusqu'à penser que grâce à la première, il entendra les prières et les lamentations auxquelles son nouveau statut de bon mort lui donnera droit, tandis que le goût revenu, il appréciera les offrandes qui lui seront adressées? La suite du récit le laisse penser, puisqu'il s'agit de conseils sur la façon appropriée de rendre un culte aux morts et qu'il y ait question de la bonne manière de les pleurer sans les effrayer et de les nourrir selon leur goût. Les recommandations des traités rituels s'arrêtent en quelque sorte à l'entrée du tombeau. Elles visent avant tout à régler dans ses moindres détails les comportements des individus affligés par le deuil et fixer la conduite de leur entourage afin que la société recouvre l'équilibre que la mort a rompu. Émile Durkheim n'est pas loin. En entrant dans la tombe, il nous est donné d'observer l'autre versant, la face cachée, celle de la vie des morts, si l'on peut dire, ou du moins la façon dont les vivants l'imaginent. Déjà, au IIe siècle avant notre ère, un vice-préfet de l'administration locale avertit un vice-préfet du monde souterrain de l'arrivée d'un mort et de tous les biens qu'il emporte avec lui. Un siècle après, c'est au maître de la terre qu'un fonctionnaire annonce la venue d'un forçat mort sous ses ordres. À partir du 1er siècle de notre ère, l'archéologie témoigne que l'existence post-mortem est strictement contrôlée. Non seulement une administration souterraine, aussi redoutable que celle des vivants, enregistre et surveille les morts, mais des procédés exorcistes et des dispositifs fondés sur les principes de la cosmologie corrélative transforment la tombe en un monde clos. Disons tout de suite que les procédés à l'œuvre sont à double sens. D'une part, ils visent à fournir aux morts confort et protection dans sa nouvelle demeure, mais d'autre part, ils mettent tout en œuvre pour les tenir définitivement à l'écart des vivants. Les matériaux les plus parlants à ce sujet sont les quelques dizaines de jarres ou bouteilles en terre cuite découvertes au cours du XXe siècle dans des tombes de dimension moyenne ou modeste. Ces céramiques, désignées le plus souvent sous le nom de Junmuping, bouteille pour sécuriser la tombe, ou Tiejuping, bouteille pour purifier ou exorciser la tombe, se présentent comme des petits récipients de 15 à 20 cm de hauteur. Elles portent sur la panse une inscription allant de moins d'une dizaine à quelques 200 caractères pour les plus longues. Sur une dizaine de ces récipients, l'inscription qui décrit le rituel apotropaïque est complétée par un talisman fou dont l'interprétation n'est pas acquise. La majorité des 230 bouteilles, dont 91 présentent une inscription, ont été découvertes aux abords des anciennes capitales de Chang'an, Xi'an et Luoyang, dans des tombes datées entre 60 de notre ère et 193. Quelques-unes contiennent des cristaux de métaux divers et à l'intérieur ou à côté des figurines en plomb que l'inscription identifie comme des serviteurs funéraires. Il faut certes garder en mémoire que ces objets sont en nombre limité, présents dans une aire géographique restreinte et durant une période d'un siècle et demi, mais l'esprit qui préside à leur usage est, je crois, plus généralement répandu. Lorsque le mobilier funéraire n'a pas été trop dérangé par les pilleurs, qui ne s'intéressent heureusement peu à ces poteries frustres, on observe que les bouteilles sont fréquemment disposées à l'entrée de la tombe et dans quelques cas exemplaires aux quatre orients et au centre de la fosse. La vertu apotropaïque de ces objets ne réside pas uniquement dans leurs inscriptions, mais dans la place qu'ils occupent dans la fosse. C'est le cas de la tombe M17 du cimetière de Sanmenxia au Henan, découvert en 1998 et appartenant à un lignage puissant de la fin des Han orientaux. En disposant sous le pavement de la tombe des récipients aux quatre orients et au centre, récipients eux-mêmes remplis de materia medica, de la couleur correspondante à leur position, car chaque orient et le centre correspondent à une couleur différente, en traçant sur les bouteilles une inscription qui indique la portion de l'espace qu'elles protègent et les divinités kinaires qui y président, en plaçant ces divinités sous le patronage de la Grande Ourse, représentée sur chacune des bouteilles, ici à la Grande Ourse, on fait de la tombe un espace entièrement surveillé. Ce dispositif paraît pouvoir fonctionner de lui-même. Chaque bouteille, par sa position et son inscription, contrôle la portion d'espace qu'elle domine en vertu des principes de la cosmologie corrélative. Mais tous les récipients et leurs inscriptions ne fonctionnent pas sur ce modèle. D'autres possibilités s'offrent aux survivants pour se protéger du retour des morts. Tout d'abord, la date du rituel. Elle a été choisie avec soin pour son efficacité hémérologique et contient par elle-même un pouvoir apotropaïque. Suit en général l'évocation d'un émissaire, Shizhi, qui agit au nom des divinités supérieures, tantôt Tiandi, l'empereur céleste, ou le dieu jaune Huangshen, ou encore l'empereur jaune Huangdi. dont il est le messager. À ce titre, il s'adresse, voire commande aux puissances souterraines. L'action de cet intermédiaire s'apparente à l'intervention du magicien, le Fang Xiangshi, qui nous est connu par la littérature. Alors que ce dernier descend dans la tombe pour y chasser les monstres qui dévorent le cerveau des morts, l'émissaire des inscriptions apotropaïques dispose quant à lui de procédés variés. Il peut, sans passer par l'administration et les instances infernales, exorciser par son propre art et sa connaissance des noms des démons. Il peut avoir recours aux énoncés performatifs, souvent rimés. Ceux-ci visent à délimiter les espaces qu'occupent d'un côté les morts, le mont Taishan, la tombe, le sombre séjour souterrain, Tixiangmengmeng, et de l'autre, les vivants, la capitale Chang'an, la maison, le ciel bleu, Shangtian Changcang. Les énoncés performatifs entendent aussi donner quittance aux défunts, aux vivants ou aux autres occupants de la tombe des conséquences néfastes des fautes qu'ils ont commises par le passé. Ce procédé de disculpation est souvent immédiatement suivi par l'expression de vœux de bonheur, une abondante descendance, la fortune et la paix pour les vivants. Ces vœux entérinent la relation d'indépendance qui s'établit désormais entre les vivants et les morts, chacun s'estimant quitte les uns envers les autres. Le confort du mort est une autre préoccupation des vivants qui entendent s'assurer qu'il ne reviendra pas les hanter. Pour lui éviter les tâches routinières et les corvées dans l'au-delà, on met à son service des substituts sous la forme de figurines en plomb. Une inscription datée de 147 nous assure « Ses serviteurs sont fort capables. Ils savent décortiquer le riz et faire la cuisine, conduire un char et tenir un pinceau. » Le défunt peut encore bénéficier d'une rente permanente qui le met à l'abri du besoin et rassure les autres occupants de la tombe quant au risque d'accueillir un potentiel solliciteur. Je traduis, aussitôt que la bouteille arrivera, que tous les défunts soient en paix. Le chef de clan qui arrive dans la tombe perçoit lui-même une rente de 20 millions de pièces. L'exorciste, cependant, ne suffit pas à contenir seul les maléfices que pourraient provoquer les morts. Dans notre corpus, sur une bouteille datée de 122, un vice-préfet du tertre se présente comme l'alter ego de l'administrateur de la capitale. Deux décennies plus tard, l'administration souterraine est composée de deux départements distincts. L'un s'occupe des registres des vivants et des morts, sous la direction du directeur du destin et d'un directeur des registres, le Selo. L'autre département, sous la responsabilité du préfet du Songshan, qui est une montagne, secondé par des patrouilleurs des chemins, est chargé de surveiller les âmes des défunts et les empêcher de quitter le séjour des ombres. Par la suite, l'administration souterraine et le panthéon en charge des morts prolifèrent jusqu'à saturer la tombe d'agents affectés à des espaces particuliers. Des responsables sont affectés au haut de la tombe, au bas de la tombe, au centre de la tombe, à gauche, à droite, etc. Notre corpus d'inscription témoigne non seulement d'une évolution chronologique allant vers la complexification des panthéons souterrains, mais encore de la coexistence de plusieurs traditions exorcistes qui présentent des points communs et des emprunts. Certaines pratiques sont ancrées dans une tradition cosmologique savante, les cinq agents, le yin et le yang, et agissent selon un mode performatif tout en ayant recours aux materia medica ou aux serviteurs et aux trésoreries funéraires. Dans un développement plus tardif, l'exorciste procède par l'intermédiaire d'une administration à laquelle il s'adresse au nom d'une divinité supérieure, Rangdi, Tiendi, Bedo, afin de s'en faire obéir. La formule finale, qu'il en soit fait selon les lois et les ordonnances, Zhu Luling, ajoute au procédé une valeur comminatoire empruntée à l'ordre bureaucratique. L'administration souterraine en vient à s'interposer en quelque sorte entre la divinité supérieure et l'exorciste. Comme on l'a vu avec le récit de la résurrection de Dan, la métaphore bureaucratique ne date pas de l'Empire, mais elle s'étoffe et se complexifie dans les deux premiers siècles de notre ère pour devenir un véritable miroir de l'administration des vivants. Quant au panthéon souterrain, soit, comme le directeur du destin, ses représentants assument des fonctions nouvelles, soit comme le vice-préfet du Tertre, le comte de la Tombe ou le gardien de la Porte des Âmes et beaucoup d'autres, ils forment un panthéon nouveau dont les traités ne parlent pas. Pour conclure, nous pouvons tenter de situer nos exemples dans un contexte plus large. Quiconque est un peu familier des tablettes de défiction ou des papyrus magiques ne peut qu'être frappé des similitudes qui existent entre les rituels apotropaïques ou les recettes de guérison du monde ancien chinois et ceux du monde antique gréco-romain. On observe le même souci des gestes et des postures particulières, le recours aux materia medica, le soin apporté au choix du moment et du lieu favorable à l'action. Il n'est pas utile de chercher des influences ou des contaminations. En revanche, il est manifeste que ce qu'on appellera, pour simplifier, les pratiques magiques entretiennent avec les pratiques religieuses prescrites par les traités rituels un rapport très comparable à celui que la magie gréco-romaine entretenait avec le culte public. La première est en effet privée, secrète et recherche le bénéfice personnel. La seconde est collective, publique et vise le bien commun. Une comparaison terme à terme n'aurait aucun sens, car les contextes sociaux, politiques et religieux sont très différents. En Chine ancienne, nulle cité, nul citoyen, mais un empire et des sujets. Mais plutôt que d'envisager les pratiques magiques comme le fait des classes populaires ou de catégories d'individus à part, voire de coutumes propres à une région ou à une époque ou même à une église particulière, il faut plutôt y reconnaître un ensemble de procédés qui existent parallèlement aux rites conservés et sanctionnés par la tradition lettrée. Et de fait, des formules d'imprécation, des rites de guérison ou d'envoûtement malveillant existent à tous les niveaux de la société, des plus humbles jusqu'à l'empereur, en passant par les princesses, les eunuques et même certains lettrés. Je vous remercie.